Vous écoutez RTL.
RTL 8h20, Philippe Corbet, vous recevez ce matin Francis Collomb.
Bonjour Francis Collomb.
Bonjour.
Vous êtes un homme exceptionnel, vous êtes cet otage qui a réussi à s'échapper des griffes d'Ansarou, ce groupe djihadiste dissident de Boko Haram au Nigeria. Vous avez vécu un 11 mois terrible, on va en parler dans un instant, et vous publiez un récit chez XO Éditions, il sort jeudi. Alors j'avais l'impression que beaucoup de gens connaissent votre histoire, on a vu quelques détails au moment de votre évasion, mais j'ai découvert une détermination impressionnante. On va reprendre l'histoire du début. Vous travaillez alors à la construction d'éoliennes au nord du Nigeria, et malgré les protections de la villa, les murs d'enceinte, les agents de sécurité, les djihadistes viennent vous chercher chez vous un soir. Ils n'hésitent pas d'ailleurs à abattre un jeune garçon qui se trouve là dans cette maison. À quoi pensez-vous à ce moment-là?
À ce moment-là, vous avez un phénomène de peur quand même, parce que quand vous entendez, entre parenthèses, ils ont tué deux policiers aussi. Hein.
Deux policiers, ouais. Également, devant la villa.
Le jeune, il était là parce que je vais donner l'autorisation au gardien. Il rechargeait son téléphone, le pauvre. Donc à ce moment-là, vous pensez qu'à essayer de sauver votre peau. Donc j'ai analysé qu'il fallait que je parte parler toi. Après parler toi, ils m'ont dit, j'ai vite compris que je me ferais descendre. Quoi. Parce que si vous fuyez, ils vous tuent. Hein.
Et vous utilisez le mot analyse, c'est intéressant parce que dès le départ, vous pensez comme ça en analysant, vous dites je suis mal barré dans la merde, je ne peux compter que sur moi, ce n'est pas par la force mais par la ruse, j'ai une chance de m'en tirer, et vous allez penser en ingénieur, vous êtes ingénieur et vous allez concevoir de façon méthodique, minutieuse, presque maniaque comme vous écrivez, dès le départ, un projet d'évasion, vous allez mettre des mois à réussir. C'est ça, cet esprit mathématique, cet esprit d'ingéniosité qui vous a sauvé.
Oui, ça en fait partie, mais le problème, c'est que je le décris dans mon livre, c'est que j'étais obligé de reprendre à chaque fois qu'on me déplaçait, j'étais obligé de refaire mes plans d'évasion. Quoi.
Mais vous calculez tout dans les plans d'évasion, c'est dans le détail. Vous comptez le nombre d'écarts de minutes entre deux événements pour tout repérer.
Je calcule tout, y compris les broquettes, c'est un terme réunionnais, ces deux clous qui sont enchevêtrés, que moi je ne pouvais pas forcément complètement les plier, donc je tirais des fils du tissu du drap pour les attacher.
Vous mettez de l'huile de palme aussi sur la porte pour qu'elle ne grince pas lors de votre évasion.
Ça c'est à canot, ça oui.
Vous utilisez aussi un bout de miroir pour essayer de faire des messages avec le soleil en morse pour les avions.
Oui, c'est vrai.
Et ça va marcher.
C'est ce que j'ai toujours cru de pouvoir m'évader. J'ai toujours pensé à ça. Je pense le décrire comme il faut dans le livre. Et j'ai toujours eu cette foi. De toute façon, ces gens-là, où vous en allez, où les gens ils voient la tête à côté et puis le visage flouté, quoi, comme on a pu voir malheureusement pour les autres otages.
Et vous arrivez même à être plus malin qu'eux en jouant la comédie, en vous faisant passer pour un sexagénaire malade, fatigué, usé. Et en fait, vous vous entraînez tous les jours, plusieurs heures par jour, à la marche rapide autour du matelas dans votre cellule pour vous préparer physiquement à l'évasion.
Oui, rapide, je faisais du fractionné. C'est-à-dire qu'on apprend ça quand on fait du rugby. Moi, j'ai fait du rugby quand j'étais jeune. On peut courir très vite, s'arrêter. Marcher, recourir, pas forcément plus vite, je faisais beaucoup de fractionnés, et quand je m'arrêtais, j'étais sur le carnet où j'écrivais que des choses techniques qui me permettaient de m'évader. Quoi.
C'est-à-dire que vous programmez comme si vous entraîniez pour de l'athlétisme, une compétition d'athlétisme, vous programmez ces tours de matelas toute la journée, plusieurs heures par jour, et c'est très précis.
Oui.
C'est vraiment étonnant, vous êtes donc dans un cachot totalement misérable et vous développez une obsession de l'hygiène dans cet endroit. On peut comprendre à quel point l'hygiène est terrible, mais ça devient obsédant au point que vous nettoyez le matelas par petits bouts.
Oui, remarquez, ça ne m'a pas empêché de revenir avec une érysipèle que j'ai mis 4, 5, 6 mois à me débarrasser. Quoi. Et avec l'aide du Val de Grâce, entre parenthèses.
Vous nettoyez le matelas, petit bout par petit bout, toute la journée, avec les restes de savon qu'on vous donne.
Exactement.
Pour pouvoir dormir dessus.
Et je ne sais pas si je l'ai dit dans le livre, je le colle sur la porte, parce que la porte est en tôle, et avec le soleil, on ne peut même pas rester 30 secondes.
Alors, dans cet endroit terrible, vous trouvez des amis, ce sont des voix que vous entendez, vous écoutez nos confrères de RFI, qui émettent en Afrique, vous écoutez les voix des journalistes, et vous découvrez aussi un chanteur, que vous remerciez d'ailleurs dans votre livre.
Oui.
Quel est ce chanteur?
Stromae.
Vous êtes devenu fan de Stromae?
Oui, d'abord parce qu'il est à cheval sur l'Afrique et la Belgique aussi, Et il est comme moi, il doit adorer l'Afrique. Moi, vous savez, j'ai fait 18 ou 19 ans en Afrique, tous les pays.
Qu'est-ce que vous entendiez dans ces chansons qui vous redonnaient de l'espoir ?
Et Papa Outé, puisque moi, à cause de mes déplacements, je n'ai pas eu mon père pendant 7 ans. Donc voilà, quoi. Ça peut... Il y a des choses comme ça, formidables. C'est... Et puis, sur l'artiste capvernienne qui en peint, c'est super.
Et vous développez aussi un rapport assez étrange avec votre geôlier qui s'appelle Abdoul. À la fois, vous racontez que c'est un obsédé sexuel qui se gave de Viagra frelaté. Vous avez une forme de mépris pour lui. Vous trouvez qu'il est stupide, il a que le mot charia à la bouche. Et en même temps, il vous raconte qu'il rêve de Paris, qu'il rêve d'aller à Disneyland. Et vous lui apprenez le calcul.
Oui.
Vous aviez une forme de fraternité, de compassion pour ce jeune homme qui était là dans l'horreur.
Mais je ne sais pas si je précise assez dans le livre, mais en lui faisant des cours rapides comme ça, il ne comprenait pas pourquoi le changement horaire, les méridiens et tout ça.
Vous lui expliquez que la Terre tourne, en fait.
Oui, etc. Mais ça m'a permis de coder tout ce que je voyais.
C'est-à-dire ?
Eh bien, quand je remettais des chiffres, si je mettais un tout petit point à côté, je savais que ce chiffre-là, c'était le numéro 2. Il faisait partie du numéro 2 de voiture.
Parce qu'en fait, voilà, vous comptez tout, vous écrivez tout sur un petit bout de cahier, et même vous concevez un projet de voiture révolutionnaire pendant votre captivité. Oui. Et vous écrivez tout sur un cahier.
Oui.
C'est quoi que ce projet de voiture ?
Ben, c'est-à-dire qu'une mini-éolienne avec un fil de 20, elle tourne plein pot 40 km/h.
Donc vous imaginez une voiture électrique, en fait ?
Alors, je ne vois pas pourquoi, avec cette éolienne, on ne rechargerait pas les batteries. Après, si vous voulez, votre disque de frein, vous avez les deux plaquettes qui viennent serrer. Moi, j'ai recréé un disque en parallèle, mais à l'intérieur, sur lequel il y a des dynamos, et vous rechargez les batteries.
Et vous faites les plans de cette voiture, et ouais. Vous écrivez sur le cahier, pendant que vous êtes en captivité, s'il m'arrive malheur, transmettez ce cahier à Vincent Bolloré en France.
Oui, parce que c'est un monsieur qui, vous savez, qui a beaucoup de comptoirs en Afrique, et qui il veut développer l'éolienne. D'ailleurs, j'ai lu dans la presse qu'il avait obtenu pour placer 14 000...
Donc vous pensiez déjà au développement de cette voiture lorsque vous étiez en captivité. Vous qui avez vécu au contact de ces djihadistes comme ça pendant 11 mois avant de réussir votre évasion, comment est-ce que vous avez vécu les événements en France depuis plus d'un mois maintenant, Charlie Hebdo, l'hypercachère ?
Ben écoutez, très mal, on ne peut pas supporter ça d'ailleurs. Mais heureusement pour moi, c'est des flashs. Heureusement que ça ne dure pas, heureusement que ça ne m'empêche pas de dormir. Mais c'est inacceptable. Et de toute façon, malheureusement, ce n'est pas fini.
Vous écrivez d'ailleurs, ce sera eux ou nous.
Oui, ce que je veux dire est peut-être un peu grave, mais si ces gens-là, ils ne méritent pas de vivre. C'est Boko Haram, mais c'est quelque chose de... Il ne faut pas faire une amalgame, ce n'est pas le Coran, hein. Ce sont carrément des fous, des sectes, je ne sais pas comment les baptiser. Mais c'est n'importe quoi, quoi.
Francis Collomb, donc c'est un témoignage assez saisissant à retrouver à partir de jeudi en librairie chez XO Éditions, le récit d'une évasion avec des aspects parfois presque cocasses lorsque vous racontez des détails de cette captivité avec ce courage formidable et cette évasion réussie. Merci en tout cas Francis Collomb d'être venu ce matin sur RTL.